Danse de joie. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est bon à nouveau de nous tenir devant lui, de nous courber devant lui, de lui donner toute la gloire, de l'exalter car il est digne d'être exalté, de le glorifier car lui seul est digne d'être glorifié. Alléluia. À lui soit toute la gloire, dès maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni. Et il veut encore nous parler par sa parole. Il nous a parlé par son esprit et il veut nous parler par sa parole. Comme c'est le premier culte de l'année, j'ai demandé au Seigneur que fallait-il dire pour que nous ayons une pensée personnelle. Quelque chose qui nous suive pendant toute l'année et tous les jours de notre vie. Et j'ai eu à cœur de lire de ces passages merveilleux concernant Marie qui se tenait au pied du Seigneur. Et je crois qu'il n'y a pas meilleure place pour commencer cette nouvelle année et chaque jour de notre vie aussi, bien sûr, que de commencer l'année au pied du Seigneur. Si nous commençons à genoux devant le Seigneur, nous resterons toujours debout. Celui qui ne commence pas à genoux ne tiendra pas debout. Car la tempête gronde dans ce monde et la tempête grondera encore davantage. Qui est celui qui tiendra debout? Celui qui se tient à genoux devant le Maître. Et Marie est là un exemple pour nous. Un exemple d'un amour passionné pour le Seigneur. Et c'est ce que je voudrais qu'on voit ce matin. Le Seigneur désire renouveler en chacun d'entre nous un amour passionné pour le Seigneur. Il ne veut rien moins que cela. Marie, c'était cela, un amour passionné. C'est là le titre du message de ce matin, un amour passionné pour le Seigneur. Si nous commençons en réalisant ce besoin et en recherchant ce but, si nous aimons le Seigneur passionnément, alors nous pourrons aimer les hommes, nous pourrons aimer nos ennemis, nous pourrons aimer n'importe qui. Mais tout dépend de notre amour pour le Seigneur, mes amis. Et dans la vie de Marie, il y a beaucoup de leçons, j'aimerais qu'on voit. J'ai noté 8 points importants, qui sont comme 8 parfums, comme elle a brisé un vase. Et un parfum est venu recouvrir le Seigneur. Il y a là comme un parfum qui est agréable à Dieu. Et l'amour que nous avons pour le Seigneur, cet amour ardent, est comme un parfum qui lui est agréable. J'aimerais donc qu'on lise deux passages, le premier dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mît en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Et un deuxième passage dans Marc, au chapitre 14, Marc 14, à partir du verset 3 jusqu'au verset 9, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Tout à l'heure, nous avons vu que c'était sur les pieds, et maintenant c'est sur la tête. Sur la tête de Jésus. Et quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum ? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis, en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi, en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. » Amen. Le Seigneur a voulu que ce que cette femme a fait soit connu du monde entier. Et à cause de l'exemple qu'elle a donné, nous pouvons, nous aussi, aimer le Seigneur comme elle a aimé. Car elle a été là un exemple qui a profondément touché le cœur du Maître. Et si le Seigneur a dit cela, c'est qu'il veut aussi que notre amour soit semblable à son amour. Et son amour était un amour passionné. Et en lisant ces versets, nous découvrons 8 caractères de cet amour passionné. Quelque chose qui est profond. Le premier caractère de cet amour est tout d'abord un amour passionné. Je reviens là-dessus. C'est un amour passionné. Vous voyez cette femme, elle vient, elle fait quelque chose que peu ont fait dans la vie de Jésus, n'est-ce pas vrai? En tout cas dans les évangiles, c'est le seul endroit où l'on voit cela. Elle a donc manifesté un amour que beaucoup n'ont pas manifesté. Et nous le voyons, c'était un amour passionné parce que ce qu'elle a livré au Seigneur, c'était quelque chose qui correspondait à une très grande valeur. Donc nous voyons par là qu'elle ne s'est pas arrêtée à quoi que ce soit. Il y avait dans le cœur de cette femme un amour qui était ardent, profond, réel. Et Jésus lui-même a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Vous savez que le cœur même de l'évangile, au cœur même de l'évangile, il y a un cœur ardent qui bat. Un cœur ardent. Un cœur brûlant. Et si le Seigneur veut qu'on renouvelle quelque chose pendant cette année, c'est un cœur brûlant pour lui. Et mes amis, vous le savez vous-même quand vous avez un cœur brûlant pour le Seigneur. Vous le savez quand vous avez un cœur tiède et vous le savez quand vous avez un cœur froid. Moi je le sais, vous n'avez pas besoin de me faire de leçons. Nous le savons. C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte et nous dit, je désire que tu aies un cœur bouillant pour moi. Et au début de cette année, il est bon de prendre certaines décisions, de dire Seigneur, avec ta grâce, ton secours, je décide d'avoir un cœur bouillant pour toi, un amour bouillant pour toi. Vous savez que cette décision vous gardera. Malheureusement, il y a des chrétiens qui décident toujours de ne rien décider. Il y a des chrétiens qui ne prennent jamais de décision. Il est important de prendre des décisions. Et en ce début d'année, il est bon de faire le point, n'est-ce pas vrai? Il est bon de faire le point dans sa vie spirituelle. L'apôtre le disait aussi aux Corinthiens, examinez-vous vous-même si vous êtes encore dans la foi. Il est bon de faire le point, mes amis, de voir où nous en sommes et de dire, Seigneur, il y a peut-être ceci et cela qui n'a pas bien été, mais maintenant, je veux que quelque chose change. Je veux un cœur bouillant pour toi. Tout dépendra de cela, mes amis, tout dépendra. Dieu n'attend pas la perfection de personne, car nul n'est parfait. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes parfaitement sauvés. Alléluia! Et parfaitement agréables à Dieu le Père. Mais s'il y a une chose sur laquelle nous devons veiller par-dessus tout, sur laquelle je dois veiller, c'est avoir un cœur bouillant pour le Seigneur. Bouillant, bouillant. Ne pas continuer notre vie chrétienne dans un train-train, dans une routine spirituelle. Il n'y a rien de plus tragique. Quand nous avons perdu ce feu, cette flamme, ce que nous ressentions il y a quelques années peut-être, nous ne le ressentons plus maintenant. Cette femme l'avait. Il y avait quelque chose de passionné en elle. Elle n'a pas eu peur devant les apôtres. Marie, elle s'est courbée aux pieds du maître. Rien ne pouvait l'arrêter. Cet amour intense et personnel pour le Seigneur. Combien nous avons besoin de grandir dans ce domaine-là, n'est-ce pas? Moi le premier. Nous en avons besoin. Car tout dépendra de cela. Votre service pour les hommes, votre amour pour votre mari, votre femme, vos enfants, pour vos frères et sœurs, pour vos ennemis, dépend de votre amour pour le Seigneur. Tu ne pourras pas aimer ta femme comme tu le veux, comme tu le voudras, ton mari comme tu le voudras, tes enfants comme tu le voudras, tes frères et sœurs comme tu le voudras, si tu n'aimes pas ardemment le Seigneur. Tout vient de là. Tout vient de là. Et rappelle-toi que lui, son amour pour toi était ardent. Amen. C'était un amour ardent, ne l'oublions pas. Dans l'évangile de Jean, il est dit qu'à un moment donné, qu'il mit le comble à son amour pour eux. Il se dirigeait vers Jérusalem et il mit le comble à son amour pour ses enfants, pour ceux pour lesquels il allait mourir. Le comble, il y avait un feu. Et personne ne pouvait arrêter ce feu. Personne n'a pu arrêter notre maître. Et quand il a rencontré quelqu'un qui avait ce feu en elle, c'est quelque chose qui a profondément touché le cœur du Seigneur. Si tu as un cœur bouillant, si tu gardes un cœur bouillant, Dieu t'utilisera toujours. Dieu fera de grandes choses avec toi. Car ce qui touche les gens, c'est quoi, mes amis? Ce ne sont pas nos beaux discours, ce ne sont pas nos belles paroles. C'est notre amour ardent pour le Seigneur. Si nous parlons de l'amour du Seigneur avec un cœur froid, croyez-vous que les gens vont être touchés? Si nous parlons de la joie du Seigneur avec un cœur triste, croyez-vous que les gens vont être touchés? Si vous parlez de la liberté que Jésus donne, alors que vous-même, vous ne vous sentez pas libre de l'adorer, de le bénir, de faire ce qu'il faut faire, comment les gens vont-ils croire? Mais s'ils voient votre amour pour le Seigneur, là, quelque chose de profond se passe en eux. Amen. Car ce que les gens veulent, c'est cette profonde sincérité. Tu dis que tu suis le Seigneur. Est-ce que tu l'aimes vraiment d'abord? C'est le premier pas. C'est la première des choses. C'est pourquoi que le Seigneur renouvelle en nous cet amour. Amen. Un amour ardent, passionné pour le Seigneur. Passionné. Oh, que le Seigneur nous aide et renouvelle en nous cet amour-là. Amen. Vous avez remarqué, on a l'impression que c'est une contradiction. D'abord, elle a versé donc le parfum sur la tête dans un passage et sur les pieds dans l'autre. Mais je crois que un évangéliste a voulu mettre en évidence une partie de la vérité et puis l'autre une autre partie. Mais les deux vont ensemble. Je crois que Marie, quand elle a oint le Seigneur sur la tête. C'était qu'elle reconnaissait Jésus comme le roi. C'était comme une couronne qu'elle mettait sur la tête de son Seigneur. Elle reconnaissait Jésus le roi. En oignant ses pieds, elle se courbait devant le Fils de Dieu. Elle le reconnaissait comme le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Elle aimait intensément ce roi des rois et le fils du Dieu vivant. Nous allons le voir. Elle a vu, elle a pressenti des choses que les autres n'ont pas pressenties, que même ses disciples n'ont pas pressenties. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un amour ardent en elle. Quand l'amour est là, il y a la révélation. Il y a la connaissance. Quand l'amour pour le Seigneur est là, Dieu se révèle à nous. Qui ne se révèle pas au plus grand théologien ? Vous pouvez en savoir beaucoup plus que celui qui a beaucoup étudié. Si nous aimons ardemment le Maître, Dieu se révèle. Amen. Deuxième caractère de cet amour passionné de Marie maintenant, c'est un amour qui ne calcule pas. Un amour qui ne calcule pas et qui se consacre totalement. Voilà une deuxième qualité de cet amour, un amour qui ne calcule pas. Vous avez vu ? Ça coûtait très cher. Il est dit que ça coûtait très cher. Donc, elle n'a pas calculé. Elle n'a pas calculé le prix. Elle ne s'est pas arrêtée à cela. Elle n'a pas dit, oh, comme les autres d'ailleurs, vous avez vu, on rouspétait. Mais pour elle, son amour n'avait pas de bornes, n'avait pas de limites. C'était un amour qui ne calcule pas. Qui révèle par là une consécration totale à celui qu'elle aimait de tout son cœur. Et ce caractère de cet amour qui ne calcule pas doit aussi nous animer. Bien souvent, nous ne faisons les choses que ce qu'il faut faire. Nous ne faisons jamais d'extra ou très peu. Très peu. Nous faisons quelque chose pour le Seigneur, mais il ne faut pas dépasser certaines limites. Il ne faut pas exagérer, comme l'on dit. Il faut pas. Il faut rester dans certaines limites. Et nous ne sommes pas prêts à faire des extravagances pour le Seigneur. Mais elle, il n'y avait pas de calcul. Il n'y avait pas cette pensée à « je fais que ce qui m'arrange ». Mais quand ça me dérange, il n'y a rien du tout. L'amour pour le Seigneur est un amour qui nous dérange aussi, mes amis. Êtes-vous prêts à faire pendant cette année des choses que vous n'avez pas fait jusqu'à présent ? Voulez-vous sortir de votre routine, de nos traditions, de nos pensées ? Voulons-nous faire quelque chose que nous n'avons jamais fait pour le Seigneur ? Elle n'a pas calculé le prix. Ne calculons pas ce que nous faisons pour le Seigneur. Ne calculons pas. L'amour ne calcule pas. Amen. Les autres ont calculé. Mais elle, combien elle devait être triste. Comment vous ne comprenez pas ? Comment puis-je calculer devant celui qui s'est donné à moi ? Le roi est là. Je donne au roi, mais qu'est-ce que c'est ? C'est rien du tout. Il est le roi, il est le roi, il est le fils de Dieu. Le beau coup qui vous semble que je donne au roi n'est rien du tout. Il semble toujours que nous en faisons trop pour le Seigneur quand nous n'avons pas la révélation de ce qu'il est, de sa grandeur, de sa majesté. C'est parce que nous avons bien souvent un petit Dieu que nous faisons de petites actions et que nous avons une petite consécration. La vision d'un petit Dieu engendre une petite consécration. Mais la vision d'un grand Dieu, majestueux, engendre une grande consécration. Amen. Un amour qui ne calcule pas. Oh, je ne veux pas calculer. Êtes-vous prêt ? Dieu va vous éprouver, va m'éprouver. Seriez-vous prêt à faire des choses que vous n'avez jamais fait pour prouver au Seigneur que vous l'aimez ? Êtes-vous prêt à faire cela ? Vous serez éprouvé. Ne calculez pas. Il est digne de votre louange, de votre amour. Amen. Charles Studd, le fameux missionnaire Charles Studd, quand c'était un grand sportif, un très riche aussi, cet Anglais, quand il a dit « Maintenant, moi, je vais partir en mission », il a dit « Mais comment ? Toi, un homme riche comme cela, tu vas partir en mission ? C'est pas possible. » Et avant de partir en mission, comme il était très riche, tout son argent, il l'a confié à une ou deux autres organisations missionnaires. Il n'a rien gardé pour lui-même. Et il lui disait, mais tu es fou. Tu es fou, Studd. Il y a un livre de lui d'ailleurs, Charles Studd, champion de Dieu. Il a bien mérité son titre. Tu es fou. Mais non, je ne suis pas fou. C'est lui-même qui le disait. Si Christ est mort pour moi, alors il n'y a pas de grand sacrifice. Il lui dit, mais tu as fait des grands sacrifices. Il lui dit, non, ne parlez jamais de sacrifice. Au service de Dieu, il n'y a pas de sacrifice. C'est lui qui a fait le grand sacrifice. Si nous faisons quelque chose pour le Seigneur, c'est un privilège. Et il disait, ne parlez pas de sacrifice, parlez de privilège. Amen. Bien souvent, nous parlons de sacrifice. Alors que Dieu nous dit, mais mon enfant, c'est un privilège que tu as de me servir. C'est moi qui ai fait le grand sacrifice. Et c'est toi qui as le privilège de me servir, de m'aimer, de parler de moi, de vivre dans ma présence. Toi qui étais un ennemi, maintenant je t'accepte dans ma présence. Quel privilège. Un amour qui ne calcule pas, parce qu'elle avait la révélation de la grandeur de son Dieu. Chose que les disciples eux-mêmes n'avaient pas compris. Mais parce que son amour était ardent, profond, elle a compris des choses que les autres n'ont pas compris, que même les apôtres n'ont pas compris. Un amour qui ne calcule pas. Mes amis, nous ne calculerons pas si nous savons à qui nous avons affaire, si nous savons qui est notre Dieu. Amen. Et il est allé, en Chine, ensuite il est allé en Afrique, il est allé en Inde aussi, je crois. Et son œuvre encore demeure maintenant. L'œuvre qu'il a fondée, Charles Studd, demeure encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Et pas à cause de sa consécration et de l'exemple qu'il a donné. On parle encore de lui, comme on parle encore de cet homme. De cette femme, pardon. Comme on parle encore de cette femme. C'est les actes d'héroïsme engendrés par l'amour demeurent éternellement. Amen. Est-ce que nous ne chanterons pas son amour dans le ciel? Cet amour extraordinaire, nous le chanterons pour l'éternité. C'est ce que vous faites vraiment par amour, qui touche le cœur de Dieu, et dont on se souviendra dans ce monde. On se souviendra de cela. Puisse le Seigneur nous donner d'être de tels exemples d'amour, qui ne calculent pas, qui ne calculent pas, mais qui sont prêts à faire des extravagances pour le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à avoir cet amour-là. Troisième qualité, c'était un amour créatif, inventif. C'est elle qui a eu l'idée du vase. Elle aurait pu, je ne sais pas, vous voyez, pourquoi elle a choisi ce vase? C'est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour pour Dieu en elle, qui lui a donné cette idée. Et l'amour fait cela, mes amis. L'amour nous rend créatifs, inventifs. Souvent, nous disons, mais moi, j'ai pas d'idée. Aime un peu plus le Seigneur et tu vas avoir des idées. Tu vas voir que ton époux céleste va te donner des idées extraordinaires. Elle, c'était un vase d'albâtre. Toi, ce sera peut-être autre chose. Mais Dieu te donnera des idées. Un amour qui invente, qui a des idées originales. C'est pourquoi Dieu veut vous utiliser chacun. Chacun là où vous êtes, Dieu veut vous donner des idées. N'attendez pas toujours de faire quelque chose quand l'autre fait quelque chose. Faites quelque chose vous-même. Dieu veut vous donner des idées. Amen. Là où vous êtes, faites. Faites ce que le Seigneur vous met à cœur. Que les autres peut-être ne comprendront pas. Cela n'a pas d'importance. Mais si tu le fais pour le Seigneur, pour sauver des âmes, pour glorifier le Seigneur, va. Si Dieu te donne une vision, une pensée, va. Amen. Elle a eu cette vision. Un amour créatif. Que le nom du Seigneur soit béni. Et plus nous aimons, plus le Seigneur nous donnera des pensées. À un moment donné en Afrique, j'étais très découragé. très découragé, parce que j'avais le sentiment d'être complètement bloqué. Et vous savez, j'avais constamment ces pensées, quand pendant notre premier séjour de 3 ans, pratiquement les portes ne se sont pas ouvertes pour nous, on était bloqués. C'était bien sûr un temps de formation pour nous, mais je me souviens encore, je me disais, Seigneur, je ne sais pas ce qu'il faut faire, je n'ai pas d'idée. Je vois les autres missionnaires, je vois d'autres évangélistes, je vois d'autres personnes. Eux, ils ont des idées, ils savent toujours ce qu'il faut faire. Moi, je ne sais jamais ce que je dois faire. Et je vous assure, c'était pénible, c'était difficile. Je disais, mais Seigneur, ce n'est pas possible, je veux faire quelque chose. Mais je ne sais pas, donne-moi des visions. Mets des idées en moi pour te glorifier. Et c'est quand, petit à petit, nous nous sommes placés devant le Seigneur, à ce moment-là, comme jamais je n'ai cherché le Seigneur, dans le jeûne et la prière. C'était la première fois dans ma vie où, avec mon épouse, le Seigneur nous a conduits dans un long jeûne pour rechercher sa face. Et j'ai dit, Seigneur, maintenant, le moment est venu où il faut qu'il se passe quelque chose. Je ne peux plus continuer, maintenant c'est fini. Je ne peux plus continuer. Maintenant, il faut qu'il se passe quelque chose. Et là, nous avons passé tout ce temps dans le jeûne et la prière. Je vous assure, s'il y a un moment où j'ai prié de tout mon cœur, c'était à ce moment-là. Et un jour, je dirai au Seigneur, un jour, au moins, je pourrais te dire que je t'ai cherché de tout mon cœur, une fois dans ma vie, au moins. Mais de tout mon cœur. Je ne pouvais pas faire plus. Je t'ai cherché de tout mon cœur pour que tu te révèles à moi, pour que tu me donnes tes pensées. Tu m'utilises, tu me montres ce que tu veux de moi. Seigneur, je ne peux plus rester comme cela. Totalement insatisfait de moi-même. Je voyais les autres où ça allait toujours tout seul, mais moi, bloqué complètement. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et les choses ne se sont pas faites tout de suite, mais petit à petit, j'ai remarqué que le Seigneur commençait à me donner une vision, des idées, des pensées. Et maintenant, il y en a tellement que je ne sais plus comment il faut faire. Maintenant, c'est l'inverse, il y en a tellement qu'on est obligé un peu de freiner. Maintenant, ça y est, la source est ouverte. Le puits, c'est le puits artésien, ça coule maintenant. Alors maintenant, on ne sait plus par où il faut commencer. Alléluia! C'est pourquoi les journées, on ne les voit pas passer. Les années, on ne les voit pas passer, n'est-ce pas vrai? Quand quelqu'un est occupé pour le Seigneur, les années, on ne les voit pas passer. On ne les voit pas passer. Le Seigneur veut te donner ses pensées là aussi. Il veut te donner ses pensées pour toi. Fais ce que tu as à cœur de faire. Tu seras étonné. Si tu l'aimes, si tu le recherches de tout ton cœur, il te mettra ses pensées. Alléluia. Mais ne cherche pas à copier les autres. C'était mon erreur à moi. Je cherchais un peu à copier ou à imiter les autres. C'était ma grande erreur, ma grande faute. Ne cherche pas à te comparer aux autres. Reste toi-même. Reste toi-même. C'est lorsque tu resteras toi-même que Dieu t'utilisera pleinement. Mais si tu cherches à être quelqu'un d'autre, tu seras limité. Tu ne pourras pas donner pleinement ce que tu es. Sois toi-même. Et Dieu t'utilisera. Et Dieu te donnera des pensées. Aime-le de tout ton cœur. Ne te laisse pas arrêter, même si maintenant tu vois rien du tout. Les pensées viendront, continue de l'aimer. Le Seigneur te montrera. Mais ne te décourage pas, ne te décourage pas. Recherche sa face. Dieu n'a jamais abandonné ceux qui recherchent sa face. Amen. Dieu n'a jamais abandonné ceux-là. Que le nom du Seigneur soit béni. Et Dieu ne t'abandonnera jamais. Jamais, jamais, jamais. Alléluia. Elle a eu l'idée d'un vase d'albâtre. D'où est-ce qu'elle a eu cette idée? C'est une idée qui coûtait cher. Mais à l'amour, il n'y a rien qui coûte cher. Quand elle a eu la révélation de la grandeur de son maître, il n'y a plus rien qui l'arrêtait. Alléluia! L'amour te rendra créateur, inventif. Que le nom du Seigneur soit béni. Quatrième caractère de cet amour passionné, c'était un amour incompris et critiqué. Nous l'avons lu, n'est-ce pas, au verset 4, que les autres ont commencé à rouspéter, Judas, ici, dans l'évangile de Jean, et ensuite les autres disciples, ils ont commencé à rouspéter. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. indignation. À quoi bon perdre ce parfum? Autrement dit, les disciples là, se sont fâchés contre elle. Comment ça? Quelle idée! Voyez-vous, cet amour divin que Dieu met en nous, quand nous cherchons à vraiment être sérieux dans notre foi, nous serons critiqués et incompris. Ça, c'est quelque chose que nous ne comprenons pas toujours, mais il faudra qu'on passe par ce chemin-là. Le disciple accompli sera comme son maître. S'ils l'ont rejeté, ils nous rejetteront. C'est pourquoi il y a là quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Nous aimerons le Seigneur de tout notre cœur, mais tout le monde ne nous acceptera pas. On sera critiqué. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et beaucoup, beaucoup se sont arrêtés parce qu'ils ont commencé à plaire, à chercher à plaire aux hommes plutôt qu'à plaire au Seigneur. Combien ont bien commencé dans la vie chrétienne, que ce soit des serviteurs de Dieu ou que ce soit des chrétiens, ont très bien commencé parce qu'au début, ils cherchaient à plaire au Seigneur qu'aux hommes. Mais avec les années, ils n'ont pas veillé. Avec les années, ils ont commencé à chercher à plaire plutôt aux hommes qu'à Dieu. Et alors, la critique étant venue, les incompréhensions étant venues, la persécution étant venue, et parce qu'ils ne cherchaient pas à plaire au Seigneur, ils sont tombés le long du chemin. Il y en a tant. Il y a tant de chrétiens que le Seigneur nous garde fidèles pendant cette année et toutes les années. Amen. Ne sois pas surpris lorsqu'on te critiquera. Vous savez, c'était un peu de la jalousie qui était là aussi. Cette femme qui manifestait un tel amour pour le Seigneur, les autres, il n'y avait que de la parole. Hein? En tout cas, Judas et puis les autres aussi, tout le monde, il est dit ici, plusieurs ont respecté. Quand on voit quelqu'un qui aime le Seigneur plus que nous, on n'est pas content. On devrait s'en réjouir, mais on n'est pas content. Regardez-moi ça, c'est la jalousie. Quand vous voyez quelqu'un qui est plus béni que vous, quelle est votre réaction? Je vous assure que ça commence à travailler là-dedans, c'est pas vrai? Il y a des choses qui commencent... Comment? Quand vous voyez quelqu'un qui loue plus, qui est plus béni, qui fait plus... L'indignation est là. Oh Seigneur, il crie trop fort! Regardez. Et s'il a été béni... Ah, ça ne durera pas! Il crie trop fort, ça ne durera pas! Vous voyez, on cherche toujours quelque chose. Pourquoi? Parce que on se sent un peu jugé par cette personne. L'autre aime plus le Seigneur que nous. Ça ne nous plaît pas. Ou cette personne est plus bénie que nous. Ça ne nous plaît pas. Il faut s'attendre à cela, mes amis. Êtes-vous prêt à supporter cette épreuve? Commencez d'abord pour être prêt à supporter cette épreuve. Laissez-moi dire une chose. Vous devez faire ceci. Vous devez d'abord vous réjouir du succès de quelqu'un d'autre, des bénédictions de quelqu'un d'autre. Amen. Commence à te réjouir. Ne sois pas jaloux. Ne sois pas rempli d'indignation en disant, oh Seigneur, c'est pas juste. C'est pas juste. C'est un jeune converti. Et moi, ça fait 20 ans que je suis converti. Tu bénis cette personne. Et moi, il n'y a rien du tout. C'est pas possible. C'est pas juste, Seigneur. Ne discute pas. Réjouis-toi. Elle est bénie, réjouis-toi avec elle. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Et si tu apprends à te réjouir du succès des autres, alors tu ne te laisseras arrêter par aucune critique que l'on pourra te faire. Aucune persécution ne t'arrêtera. Parce que toi, tu sais te réjouir du succès des autres et des bénédictions des autres. Amen. Ça, c'est un point important. Un amour incompris. On aime le Seigneur, tu aimeras le Seigneur et tu seras encore incompris. Vous vous rendez compte? Et on tordera même tes motivations. On va tout tordre. Le Seigneur est passé par là. Il était parfait. On avait toujours quelque chose à lui redire. Vous êtes d'accord? Et il était parfait. Si on a toujours trouvé à redire à quelqu'un de parfait, à combien plus forte raison on aura quelque chose à redire de nous qui sommes imparfaits? Alors, ne t'en étonne pas, c'est normal. C'est normal. Notre vie, si nous vivons pour le Seigneur, c'est une odeur de vie pour le Seigneur, mais pour ceux du monde, c'est une odeur de mort. Les autres n'accepteront pas cela, mais ne te laisse pas arrêter. Si nous vivons dans la lumière, et dans la sainteté. Notre vie sera comme une condamnation pour ceux qui vivent dans les ténèbres et dans la souillure. N'est-ce pas vrai? Voilà pourquoi tu seras haï si tu marches avec le Seigneur. Les gens se sentiront jugés. Certains accepteront le Sauveur, devenir brisés aux pieds du Seigneur. Mais les autres, par orgueil, ne l'accepteront pas. Mais rien n'a arrêté cette femme. Un amour incompris et critiqué. Si tu crois que tu ne seras jamais critiqué, tu te fais des illusions, tu n'es pas réaliste. Mais ne te laisse pas arrêter. Réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Amen. Va de l'avant et que personne ne t'arrête. Alléluia. L'apôtre Paul disait, si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Si je voulais encore plaire aux hommes, à qui veux-tu plaire? Au Seigneur ou aux hommes? C'est une question à laquelle il faut répondre. Il faut répondre. Seigneur, c'est à toi que je veux plaire. Et si tu veux plaire au Seigneur, tu ne plairas pas forcément à tous les hommes. Automatiquement, si on plaît à Dieu, on ne plaira pas à tous les hommes. Il y a un choix. Cherche à plaire à Dieu par-dessus tout. Que son sourire approbateur soit ta récompense. Amen. Que vous puissiez le regarder et qu'il puisse vous sourire en disant, mon enfant, cela va bien. Tu as fait ce que tu as voulu, ce que j'ai voulu. Tu l'as fait par amour pour moi. Cela va bien, mon enfant. Ce n'est pas parfait, mais cela va bien. Tu cherches à me plaire, c'est ce que je recherche. Ne te laisse pas arrêter par qui que ce soit, va de l'avant. Gloire au Seigneur. Cinquièmement, un amour considéré comme du gaspillage est inutile. Versets 4 et 5. Oh, pourquoi cette perte? On aurait pu utiliser cet argent pour les pauvres. Alors bien sûr, le Seigneur ici n'était pas contre les pauvres. Il leur a dit, les pauvres sont toujours avec vous, vous pouvez leur faire du bien. Il n'est pas question de ne pas penser aux pauvres. Mais eux, ils considéraient cet acte-là comme de la pure perte. Vous voyez, alors là, il y a un autre caractère dans l'amour. C'est un amour qui est considéré comme du gaspillage et inutile par le monde. Non seulement on nous critique, on peut nous critiquer, mais on est incompris et on considère cette façon de faire comme du gaspillage. Ça, c'est un test difficile à passer. Quand on vous considère comme vivant une vie qui est gaspillée, et on vous dit, oh, mais tu aurais pu faire ceci, tu sais, dans ta vie. Tu aurais pu faire cela. Tu aurais pu faire cela. Tu aurais pu devenir une grande personne. Tu aurais pu devenir ceci et cela. Quel gaspillage. Maintenant que tu suis le Seigneur, mais c'est la misère. Voyons, tu gâches ta vie. Quelle inutilité. Notre amour pour le Seigneur nous fera passer par là. Les gens penseront que notre amour pour le Seigneur, c'est quelque chose d'inutile, de superflu. Et ils nous rejetteront à cause de cela. Cette femme est passée par là et rien ne l'a arrêtée. Seigneur, je veux t'aimer. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Car tu es ma perle de grand prix. Alléluia. Ma vie n'est pas gaspillée, au contraire. C'est depuis que je t'appartiens que ma vie vaut la peine d'être vécue. Mais le monde dit c'est du gaspillage, c'est inutile, ça ne sert à rien. Tu aurais pu faire autre chose et le diable vous tentera. Le diable vous tentera, vous dira, ah, tu vas bien, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Si tu faisais autre chose, eh bien, tu serais quelqu'un d'autre. On te connaîtrait davantage. Et tu ferais d'autres choses, beaucoup plus intéressantes que cela. Ce serait beaucoup plus intéressant. Tu perds ton temps. Tous les grands hommes de Dieu ont passé par cette tentation-là. Vous passerez aussi par cette tentation. Mais si Jésus est la perle de grand prix dans votre vie, alléluia, rien ne vous arrêtera. Ce que le monde vous propose, ce ne sera rien du tout que des pierres à côté de la perle de grand prix qui est Jésus-Christ, alléluia. Sixièmement, on en arrive à cet amour justement plein de discernement. Sixième caractère, un amour plein de discernement. Jésus a dit, laissez-la tranquille, elle fait cela pour ma sépulture. Au verset, elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Et avez-vous remarqué, enfin, à la fin des évangiles, on ne voit pas Marie au tombeau. On voit les autres dames, mais Marie, cette Marie-là, la sœur de Marthe et tout, il n'en est pas fait mention. Pourquoi ? Parce qu'elle avait compris quelque chose que les autres n'avaient pas compris. Elle avait compris la mort et la résurrection de Jésus. Elle avait déjà embaumé le corps de Jésus, c'était fait. Son amour pour le Seigneur lui avait permis d'avoir cette révélation. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture, d'avance. Elle a compris quelque chose que vous n'avez pas compris. Pourquoi ? C'est l'amour qu'elle avait dans son cœur pour moi qui a permis cette révélation. C'est pourquoi lorsqu'on aime, Dieu ouvre la porte de la révélation. À celui qui aime beaucoup, Dieu se révélera beaucoup. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Allons un peu plus loin. Septièmement, c'était un amour récompensé. Il est dit que dans l'évangile de Jean, il est dit que et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. La huitième qualité de cet amour passionné, c'est que cet amour est toujours récompensé. Septièmement. Cet amour est toujours récompensé. C'est-à-dire que quand elle a elle-même brisé ce vase, elle a été la première à sentir l'odeur du parfum. En embaumant le Seigneur, elle a été, elle, la première à être bénie. Autrement dit, en donnant au Seigneur, on est toujours les premiers à recevoir. Amen. L'amour passionné est toujours récompensé. Tout ce que vous faites pour le Seigneur ne l'oublie jamais. Donnez, et il vous sera donné. Et on versera dans votre mesure, dans votre sein, une mesure serrée, secouée et qui déborde. Elle était la première à sentir ce parfum. En bénissant le Seigneur, en embaumant le Seigneur, elle-même, elle a été embaumée. Alléluia! C'est en donnant que vous recevrez. Dieu ne vous abandonnera jamais. Et partout où vous allez, les gens diront, mais on a déjà senti cette odeur sur quelqu'un d'autre. Ce parfum, on l'a déjà senti. Comment ça se fait que tu sens comme ça, toi ? Et ils vont se dire, ah oui, mais c'est Jésus, il sentait la même chose. Ce que tu fais pour Jésus, Jésus te le fera aussi. Tu seras récompensé. Tu seras récompensé. Amen. Même le petit verre d'eau ne sera pas abandonné, ne sera pas négligé. Même le petit verre d'eau. Ne l'oublions pas, mes amis. Ne l'oublions pas. C'est pourquoi nous pouvons parfois travailler et ne rien voir tout de suite. Il y a toujours un temps d'épreuve. Que ce soit dans une vie personnelle, que dans une vie d'église aussi. Il y a toujours un temps d'épreuve au départ. Que dans un ministère aussi. Quand un ministère démarre trop fort, moi je l'ai vu, combien de fois, certains ministères qui démarrent avec des choses extraordinaires, il n'y a plus personne maintenant. Ils sont incapables de contenir cette bénédiction. L'orgueil les a fait tomber. Il y a toujours une préparation. Le moulin de Dieu moue très lentement. Très lentement. Mais vous ne pouvez pas l'arrêter. Quand il est en marche, c'est parti. Personne ne pourra rien contre vous. Quand vous travaillez pour le Seigneur, quand vous aimez le Seigneur, le moment viendra où sa bénédiction retombera sur toi. Amen. Même si tous t'abandonnent, lui, il ne t'abandonnera jamais. Et les plus petites actions, à ses yeux, ont une grande valeur. Et je termine maintenant. Huitième caractère de cet amour passionné, c'est un amour qui ne s'oublie pas. Un amour qui ne s'oublie pas. Jésus l'a dit maintenant, il faut que tout le monde parle de ce que cette femme a fait. Tout ce qu'on a fait vraiment pour le Seigneur, par amour pour lui, mes amis, lui ne l'oubliera pas. Et c'est ce qui restera encore aussi sur cette terre. Tout ce que vous faites vraiment pour le Seigneur portera ses fruits. Amen. Portera ses fruits. Ce n'est pas tellement la multitude d'activités que nous avons qui fait quelque chose qui impressionne Dieu ou les hommes. Ce qui impressionne Dieu, c'est l'amour qu'il y a dans ce que vous faites. Amen. Et l'amour qu'il y a dans ce que nous faisons pour les hommes. Et cela, le moindre geste, on peut s'en rappeler, n'est-ce pas vrai? Vous en rappelez vous-même de certaines personnes qui ont fait un petit geste, rien du tout, mais ça a été fait par amour. Un geste qui vous a touché, des larmes, un attouchement, un petit cadeau, un petit geste de rien du tout, mais qui a été fait avec amour. C'est un geste scellé de l'éternité. Vous n'oublierez jamais. Jamais vous n'oublierez cela. C'est pourquoi nous pouvons faire beaucoup de bien autour de nous. Si nous sommes vraiment remplis de cet amour passionné et qu'il n'y a plus aucune petite chose qui nous arrête. Tout ce que nous le faisons avec amour pour le Seigneur. Faites tout. Servez le Seigneur. Faites tout comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Voilà ce qui peut régler beaucoup de nos problèmes dans notre vie. Beaucoup de désappointements, beaucoup de déceptions. Bien souvent, nous faisons les choses comme pour les hommes, mais non pas pour le Seigneur. Ça m'est arrivé souvent, ça. Surtout au début de ma vie chrétienne, et au début du ministère aussi. Je faisais tout comme pour les hommes, mais pas pour le Seigneur. Et j'étais déçu. En regardant trop aux hommes, à un moment donné, non, je fais plus rien du tout. Ils le méritent pas, de toute façon, maintenant. C'est fini. Qu'est-ce que c'est que je ne veux pas travailler pour des gens comme ça? Ça va pas du tout. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je commençais à arrêter, puis je faisais plus rien. Plus rien du tout. Je travaillais comme pour les hommes, et non pas comme pour le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, attention, s'il a quelque chose, c'est moi qui m'en occupe. Mais toi, travaille comme pour le Seigneur. Travaille comme pour le Seigneur, et non pas comme pour les hommes. Servez Christ, le Seigneur. Alléluia. Que pendant cette année qui s'ouvre, que nous puissions vraiment servir le Seigneur. Le Seigneur, et que dans les moindres gestes, actions, paroles, mettons-y notre cœur. Amen. C'est le moteur, c'est l'huile. C'est l'huile qui va permettre de faire fonctionner notre vie spirituelle à un rendement le plus efficace possible. Amen. Mais s'il n'y a pas cet amour dans le fond de notre cœur, la moindre difficulté nous arrêtera. Que le Seigneur nous garde et que le Seigneur nous donne d'avoir, de retrouver, de maintenir ce cœur passionné pour lui. Alléluia! Je crois que nous passerons ainsi la plus belle année de notre vie. Seigneur, fais de moi un homme, une femme qui t'aime passionnément, jour après jour, de mieux en mieux, de plus en plus. C'est là ma prière. S'il sait là notre prière, à genoux à ses pieds, nous resterons debout dans la tempête. Et personne ne pourra nous faire tomber. Parce que nous sommes à ses pieds, devant lui, dans l'adoration, la contemplation, la consécration totale de notre être. À lui seul soit toute la gloire, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen.